Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, on se penche sur un empire de plus de 40 millions d'habitants à l'époque, où du jour au lendemain, on élit une assemblée nationale. Mais avec à peine 2% de la population qui a le droit de voter. C'est le Japon du 10 août 1902.
Exactement. Et la vraie question qu'on se pose aujourd'hui sur ce scrutin, c'est de savoir si, bien qu'élitiste, il représente...
Le véritable acte de naissance de la démocratie parlementaire japonaise. Pour ma part, je suis convaincu que oui, c'est en fait un basculement fondamental des institutions.
Et moi, je suis persuadée qu'il n'y a aucune aube démocratique là-dedans. C'est pour moi un pur règlement de compte financier au sein d'une oligarchie très verrouillée.
Ah.
Une simple lutte de pouvoir entre des notables ruraux d'un côté et des généraux de l'autre.
Mais, enfin, regardons juste le résultat direct de ce scrutin. Le Riken Seiyukai, donc le parti fondé par Ito Hirobumi,
Oui?
décroche la majorité absolue, avec 191 sièges sur 376. C'est un véritable séisme institutionnel, en fait, parce que la Chambre des représentants obtient un pouvoir de blocage totalement inédit.
Inédit, oui, mais...
Le gouvernement, ne peut plus passer en force. Il est structurellement obligé de négocier avec des élus.
Négocier, d'accord, mais entre qui et qui? Je veux dire, il ne faut pas plaquer nos idéaux modernes sur ce Japon de 1902, avec ce fameux seuil censitaire...
Les 10 yens d'impôts.
Voilà, il fallait payer au moins 10 yens d'impôts directs pour pouvoir voter. Donc, les urnes sont strictement réservées aux riches propriétaires terriens, aux commerçants, et surtout... Le vrai pouvoir exécutif, il échappe totalement au Parlement.
Totalement, vous trouvez?
Ah, complètement. Il reste aux mains des généraux, ces pères fondateurs de l'ère Meiji qui tirent les ficelles dans l'ombre, et du Premier ministre, le général Katsura Taro, qui, je le rappelle, est issu de la puissante clique militaire de Choshu. Donc ce n'est pas, mais alors pas du tout, le peuple souverain qui s'exprime ici.
D'accord, je vous concède que 2% de votants, c'est infime, même si, bon, le corps électoral venait tout juste de doubler grâce à une réforme.
Ça reste une goutte d'eau.
C'est vrai, mais il faut comprendre la mécanique implacable qui se met en place. La Constitution donne à cette Assemblée une arme redoutable, qui est le vote du budget. C'est comme le principe du levier d'Archimède, en fait.
C'est-à-dire?
La Chambre n'a qu'un tout petit point d'appui constitutionnel, mais elle l'utilise pour soulever l'immense poids de l'exécutif militaire. Si les députés ne votent pas le budget, l'État s'arrête. Il ne peut plus fonctionner ni financer ses projets. Et par cette pression, il force les oligarques à reculer.
Attendez, attendez, précisons quel est l'enjeu réel de cette fameuse pression budgétaire. Ce n'est absolument pas un grand combat pour les libertés civiles.
Ah bon?
Non. C'est un calcul fiscal, purement égoïste. Pourquoi est-ce que ces 191 députés bloquent le gouvernement Katsura? Parce qu'ils exigent la suppression de la lourde taxe foncière.
Oui, une taxe qui pèse lourd.
Qui pèse sur leurs propres électeurs, oui. Et en face, l'État. Pourquoi il a un besoin vital de cette taxe?
Pour financer la marine et l'armée de terre.
Exactement. Tokyo vient tout juste en janvier de signer l'alliance anglo-japonaise. L'Empire prépare activement la guerre contre la Russie pour contrôler la Corée et la Mandchourie. Donc l'armée veut ses canons et les députés veulent protéger leur rente agricole. C'est un marchandage de marchands de tapis, pas la naissance d'une démocratie, hein.
Mais j'ai envie de dire, peu importe la motivation fiscale de départ, c'est la mécanique instaurée qui change l'histoire. En forçant ce marchandage, les partis apprennent à monnayer leur influence politique. Et c'est ce fil rouge, tendu en 1902, qui va tirer le système vers ce qu'on appellera la démocratie Taisho. C'est cette habitude de la concession parlementaire qui va permettre plus tard, en 1918, la nomination de Hara Takashi, le tout premier chef de gouvernement roturier.
Oui, c'est un fait.
Un premier ministre issu d'un parti politique et non de l'aristocratie militaire. L'élection de 1902 a forcé le code source du régime à muter.
Hara Takashi au pouvoir, certes, mais... Ne tombons pas dans le mythe d'une trajectoire dorée vers la liberté non plus.
Je ne dis pas que c'était parfait.
Le système s'est profondément autoritaire. Je rappelle que le suffrage universel masculin, il n'est arraché qu'en 1925.
C'est vrai.
Et pour les femmes, il faudra attendre 1945. Pendant tout ce temps, le régime naissant réprime durement les mouvements ouvriers, la corruption électorale explose, et surtout l'armée garde une influence, mais tentaculaire sur la politique nationale. Vos députés de 1902, ils faisaient bien pâle figure face à des généraux capables de faire tomber un cabinet civil par la force.
Il pesait peut-être moins sur le plan militaire, c'est sûr. Mais le sabre a dû, en fait, apprendre à composer avec l'urne. La réalité de 1902, c'est qu'il devient impossible de gouverner à Tokyo sans compter les voix des représentants.
Et moi, je m'en tiens que le système concède ce minimum syndical de pouvoir budgétaire uniquement pour assurer la survie d'un État militarisé, tout en gardant le contrôle bien ancré chez les élites.
Eh bien, je crois qu'on peut s'accorder sur le fait que le Japon de la fin de l'ère Meiji reste définitivement un laboratoire politique d'une complexité assez fascinante.
Absolument. Ça nous montre bien comment les intérêts les plus pragmatiques et parfois les plus égoïstes forgent les institutions de demain.
Voilà. On vous laisse le soin de le trancher. La naissance d'un régime parlementaire ne s'écrit peut-être jamais avec de grandes déclarations philosophiques, mais plutôt dans l'ombre d'une âpre négociation fiscale. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse croisée et à bientôt dans Le Débat.
À très vite.